Le Comité international olympique a l'honneur d'annoncer que le 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises.
Le président du CIO l'a annoncé le 24 juillet dernier, les JO d'hiver de 2030 seront français. Une aubaine, sachant que le ski tricolore vit actuellement un âge d'or. L'équipe de France de ski alpin venant de signer un splendide 0 médaille aux Mondiaux en Autriche. Bonjour Pierre Rondeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Pierre, vous êtes économiste du sport, professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et à la Sports Management School. Vous avez cofondé et vous co-dirigez l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Jeudi, on a appris que c'était finalement, après pas mal d'atermoiements, Edgar Gros-Piron, l'ancien champion de ski de bosse, idole de mon enfance, qui allait incarner l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Il a été choisi pour présider le comité d'organisation. Déjà, c'est un bon choix pour vous, Edgar Gros-Piron ?
Il fallait une tête de gondole, hein. Il fallait un sportif de niveau, représentant du sport français, anciennement champion olympique de ski de bosse. Donc oui, c'était un bon choix, quelqu'un de compétent, quelqu'un de connu auprès du grand public.
Oui, mais Gérard Holl, c'était connu aussi auprès du grand public.
Gérard Holl, c'était connu, Philippe Candeloro était connu aussi. Il y avait des gens connus qui auraient pu effectivement prétendre prendre la tête du COJOP, du comité d'organisation olympique. C'est un choix, alors... Le bon choix, je vous le dirai au moment de l'organisation, c'est un succès. Là, on pourra confirmer si effectivement ça a été un bon choix. En tout cas, il fallait rapidement prendre une décision parce qu'on est déjà en 2025, c'est dans 5 ans. Ça va arriver très vite. Hein. Je rappelle que pour les Jeux de Paris en 2024, c'est en 2017 qu'on a eu l'organisation et qu'on a commencé à organiser. Là, on n'a que, si je puis dire, 5 ans. Il faut aller vite et donc effectivement... Enfin, on a pris une décision, on a fait un choix et on a pris Edgar Gros-Piron.
Longtemps, en tout cas quand il gagnait des médailles, j'ai laissé planer le doute sur mes liens de parenté avec le skieur Clément Noël. Mais voilà, depuis qu'il est reparti bredouille des derniers mondiaux, accrochant une porte dimanche durant le slalom...
J'ai pas accroché, j'ai ripé. Mais quelle iconne, celle-là !
Je ne suis pas conne, Clément. Et attention, parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. J'ai vérifié, en fait, on n'a aucun lien de parenté. Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen chaque après-midi, 2 heures pour être au fait de l'actualité sans jamais oublier d'en rire. Et si on s'apprête à zoomer sur les JO d'hiver de 2030 qui auront lieu dans les Alpes françaises, c'est bien sûr parce que le directeur du COJOP vient d'être nommé, mais aussi double actu, parce qu'en fin de semaine, Manon Mariani débarquera à Méribel. S'extasiant devant chaque napperon de chaque restaurant d'altitude qui lui facturera l'assiette de Crozet 27 balles.
Mais regardez-moi cette dentelle!
La finesse du point jusqu'au jour où, lassé des Crozets et décidant de surmonter son aversion légendaire pour le fromage, Manon décidera de tenter une recette typiquement locale.
Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fouine.
La fouine. Oui, la fouine, tu vas voir, tu vas adorer.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Alors Pierre Rondeau, vous allez nous dire si ces JO de 2030 s'annoncent bien, juste le temps de vous présenter effectivement mes athlètes à moi, à commencer par celle dont l'obsession principale est de savoir, je cite, s'il y a une folie douce à Méribel. Je crois hélas que non, il vous faudra prendre l'hélico jusqu'à Courchevel, une broutille par rapport au budget global de vos vacances. Manon, chaque après-midi vous nous décryptez l'actu des réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire aujourd'hui.
Pourquoi tous les créateurs de contenu se mettent à faire des podcasts? En quelques années, ils sont devenus de véritables outils pour gagner en popularité mais surtout en crédibilité. Je vous explique ce phénomène dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Pierre Rondeau, il ne pardonnera jamais au ski de nous avoir pris Michael Schumacher. Raison pour laquelle, depuis 15 ans, il boycotte systématiquement les JO d'hiver, sans conséquences notables pour l'instant pour les JO d'hiver, qui continuent de fédérer malgré ce boycott. Quentin, chaque après-midi, vous épluchez pour nous la presse quotidienne régionale.
J'ai lu la Tribune de Lyon ce matin. L'hebdomadaire accorde une double page sur la place que peut occuper ou pas la troisième ville de France.
Avec nous, comme chaque après-midi, celle qui, vers la demi, avait fait trembler chaque jour la République. Un seul mot de sa part, et c'est une carrière politique qui peut être réduite à néant en un instant. Mais un grand pouvoir appelant une grande responsabilité, nul doute qu'elle ira mollo cet après-midi avec deux hommes qu'elle adore, qu'elle adule. Bonjour Marie Debreuil.
Bonjour Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez sont tous les deux candidats à la présidence du parti Les Républicains. C'est un sujet que m'a suggéré Cyril, qui ne sait pas pour qui voter. Voilà, je le cite, mais c'est comme choisir entre son père et sa mère. Il faut choisir sa mère et non pas Bruno le maire. qui est juste un autre gars qui a rien à foutre de mon fils.
Mais c'est bien de parler de lui, parce qu'il avait un peu disparu des radars. Enfin, lui, s'il se retrouve à devoir hésiter entre Retailleau et Wauquiez, c'est uniquement parce que la justice s'est acharnée sur son idole, François Fillon. Lui seul aurait pu redresser la France, fille aînée de l'église, tenait Cyril, en agitant une pancarte Pénélope, on t'aime, devant la cour de cassation. En vain. Depuis, il noie sa frustration dans le Lacar News. Les trois infos que vous aurez hâte de raconter à la maison ce soir, au menu Cyril.
Eh bien, les remerciements de Jacques Audiard à François Fillon, l'horloge qui tourne du côté de Rome, et le sport, le vrai, celui des mecs de demain, pas les jeux d'hiver, des jeux augmentés garantis 100% peau belge.
Le Lacar News, ce sera comme d'habitude juste avant la demi, mais d'abord, l'économiste du sport Pierre Rondeau est avec nous pour comprendre l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes françaises dans 5 ans, et on va commencer par rembobiner un peu. On a entendu le président du CIO attribuer les Jeux aux Alpes françaises et pas à une ville, comme c'est l'usage. Est-ce que, déjà, il n'y a pas quelque chose qui cloche dans cette candidature?
Alors, c'est une première, ouais. Et à ce niveau-là, j'ai pas envie d'envoyer des fleurs au CIO, ou en tout cas, de défendre leur propos, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pris conscience véritablement du dérèglement climatique, ils ont pris conscience des réalités climatiques, ouais. Et des réalités économiques aussi, contrairement notamment à la FIFA, qui elle a pris une autre direction. Et le CIO a considéré qu'effectivement, de moins en moins de villes seraient capables d'organiser des Jeux Olympiques d'envergure, donc d'hiver, et donc, de fait, a accepté, et c'est une première pour les Jeux d'hiver, pour les Alpes 2030, a accepté à ce que dorénavant, non plus une ville soit représentante de la compétition, mais qu'une région entière, qu'une situation, qu'une zone géographique puisse représenter la compétition. Ce qui est intéressant, c'est que pour les Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet avait demandé, ça avait été refusé par le CIO, mais au moment de l'organisation, il avait demandé à ce que les Jeux soient renommés France 2024, puisqu'on avait des compétitions à Châteauroux, à Marseille, en Polynésie, un peu partout. Et donc, il avait demandé à ce qu'on mette en avant, non pas Paris 2024 pour des compétitions à Saint-Denis ou ailleurs, mais la France. Et à l'époque, le CIO avait refusé. Là, pour les Alpes 2030, parce qu'il y a une contrainte et une réalité environnementale, ils acceptent parce que dorénavant, des candidatures soient couplées à plusieurs régions.
Mais du coup, ça veut dire que concrètement, chaque station, même petite, pourrait accueillir des compétitions?
Potentiellement, elle pourrait. Comme ça, ça éviterait à ce qu'on ait ce qu'on appelle des éléphants blancs, des constructions d'envergure pour des Jeux Olympiques qui soient abandonnées a posteriori. Ouais. Donc là, effectivement, on utilise ce qu'on a déjà. C'est vraiment intéressant, c'est vrai, parce que le CIO, donc, je répète, qui a pris conscience de la réalité environnementale, considère dans un rapport récent que d'ici 2040, il n'y aurait plus qu'une quinzaine de villes capables d'accueillir des Jeux Olympiques d'hiver.
Dans le monde.
On n'est pas du tout. Alors là, on est vraiment à des années-lumière des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. On est vraiment sur une réalité concrète. Dans le monde, une quinzaine de villes pourraient accueillir des Jeux Olympiques parce qu'on parle de compétitions d'envergure internationale avec beaucoup de compétitions, beaucoup de monde, un flux touristique, un flux sportif vraiment très important. La compétition, donc. Face à ça, obligation de coupler plusieurs villes, plusieurs zones géographiques. On s'attend à ce que des villes en Italie puissent accueillir des compétitions des Alpes 2030 si on n'a pas toutes les infrastructures.
Je croyais que c'était les Alpes françaises, monsieur.
Oui, mais si, par exemple, la piste de bobsleigh qu'on n'a pas en France doit être utilisée, est-ce qu'on en construit une qui soit ensuite abandonnée ou qu'on en file à côté en
mais
Italie?
Pour les déplacements, parce que les Alpes françaises, c'est 250 km de la Riviera jusqu'au Grand Bornand, à peu près. Pour se déplacer en montagne, on sait que c'est pas pareil. Il n'y a pas un souci logistique là-dessus?
Ah ben il y a forcément un souci sur lequel il faudra effectivement répondre et faire face à ça, sur le déplacement. Le déplacement touristique, en plus effectivement dans les montagnes c'est beaucoup plus compliqué, mais le déplacement touristique c'est vraiment l'enjeu pour les compétitions futures. On le sait, j'ai en tête par exemple la Coupe du Monde de rugby 2023. La Coupe du Monde de rugby 2023, on estime, l'étude récente Ex Post indiquait que 93% des émissions carbone étaient dues au flux touristique.
Au public qui vient.
Au public qui venait. Et les économistes, les rapporteurs de l'étude, avaient indiqué comme proposition de conditionner la vente de billets à la promesse de ne pas prendre l'avion. Alors, compliqué, aller dire ça aux Néo-Zélandais, aux Australiens, c'est une vraie question qui se pose, et c'est une compétition sportive. Parce que vous avez raison, en plus, dans une zone géographique, il y aura le déplacement inter à l'intérieur, mais pour tous celles et ceux qui viennent de l'étranger et qui viennent dans la compétition...
Pour suivre
ensuite, ils doivent se déplacer à l'intérieur, effectivement, les émissions carbone sont très importantes, et c'est la majeure partie des émissions carbone.
On continue de zoomer sur ces JO de 2030 dans les Alpes françaises. Et si on arrêtait avec nos pudeurs de gazelle et qu'on imaginait des JO où le dopage serait autorisé? Trop tard, le fils de Donald Trump a déjà lancé le projet. Cyril vous explique juste après Björk, Bachelorette sur Inter.
Saint-Père, Zoom Zoom Zoom, Mathieu Noël.
Carla Sofia Gascon, rabibochée avec Jacques Audiard, en tout cas au BAFTA, le réalisateur d'Emilia Pérez lui a rendu hommage. Cyril nous dit tout de cet énième revirement. Et puis cette question, la ville de Lyon est-elle
mal aimée? Je suis le mal aimé.
En tout cas, Lyon estime qu'elle n'est pas assez présente dans le dispositif JO. Pour l'instant, Quentin nous explique pourquoi. Mais pour l'heure, on continue de zoomer justement sur ces JO d'hiver dans les Alpes françaises avec vous, Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport. Demain, le COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, se réunit. On sort un peu d'un psychodrame quand même. Martin Fourcade devait être désigné président de ce COJOP. Finalement, il s'est retiré. On sait ce qui s'est passé en coulisses ?
Il y a plein de choses qui se disent, il y a une question de peur, une question de compétence, on peut aussi imaginer, supposer, hein, vraiment, c'est dit avec beaucoup de guillemets et beaucoup de suppositions, que ça soit une question politique, que politiquement, il n'était pas proche de la droite régionale, de la droite locale qui espérait profiter...
On pense à Laurent Wauquiez.
On pense à Laurent Wauquiez notamment, qui espérait profiter de l'engouement olympique 2030 pour profiter du président du COJOP et profiter de son aura pour ensuite... Après les Jeux 2030, si c'est un succès, pouvoir le mettre en avant. Pourquoi, par exemple, ne pas profiter si on peut imaginer qu'en 2027, on ait une victoire de la droite, une victoire présidentielle du camp de la Macronie. Bah, profiter finalement, comme l'a été Tony Estanguet pour les Jeux 2024, profiter des JO 2030 pour bonifier, pour mettre en avant le président du COJOP. Donc il y a une considération politique. Nicolas Fourcade, on le savait, proche de la gauche française. Il y avait une
Martin opposition.
Martin Fourcade. Et on le savait proche de la gauche française. Ouais. Donc il y a dû avoir en coulisses, j'imagine, des oppositions et ça a pu jouer.
C'est un rôle qui prend la lumière, on l'a vu avec Tony Estanguet cet été. C'est peut-être ça aussi qui gênait finalement à la fois Renaud Muselier et Laurent Wauquiez.
Oui, parce que en plus, si on rajoute à ça le volet politique, ça gêne d'avoir quelqu'un qui, on l'a vu vraiment pour Paris 2024, et on espère que les Jeux 2030 auront le même succès que Paris. Tony Estanguet, il a été pendant un an la personne connue, la star, présent sur tous les plateaux télé, présent dans tous les médias, mis en avant pendant la cérémonie d'ouverture devant 1 milliard de téléspectateurs. Donc effectivement, c'est un rôle très important, très, très compétent, c'est sûr, mais très important aussi. Donc oui, s'il avait une opposition dans le fond idéologique et politique, la droite locale et régionale n'aurait pas apprécié avoir un Martin Fourcade opposé à Laurent Wauquiez.
Et puis dans le monde des sports d'hiver, Martin Fourcade, c'est une énorme star déjà. Donc peut-être que pour Muselier et Wauquiez, ça faisait un peu d'ombre. Il préfère une star comme Égaro Piron. C'est-à-dire, moi, je m'en souviens. Mais
est moins connu. Mais encore une fois, je le répète, si on fait le parallèle avec les Jeux de Paris 2024, quand bien même aujourd'hui Égaro Piron soit moins connu qu'un Martin Fourcade, si c'est comme pour Paris 2024, d'ici quelques années, il sera aussi connu, aussi important et plus connu que Laurent Wauquiez. Donc si Laurent Wauquiez est jaloux de cette notoriété, il va rapidement...
Déchanter. Mais c'est pas contre-productif que les politiques s'en mêlent autant ?
Bah, en même temps, oui et non, parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine du financement et de l'organisation. Donc sans leur aval et sans leur soutien, ce serait compliqué de mettre ça en place. Je rappelle par exemple, d'un point de vue strictement politique, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a les Jeux ? Et pourquoi on a, depuis quelques années, autant de compétitions sportives en France ?
Pourquoi on se bat pour avoir les Jeux, surtout ?
Comment ?
Pourquoi on se bat pour avoir les Jeux ?
Pourquoi on se bat et pourquoi on les a très facilement ? On s'est battus, on était les seuls candidats.
Oui, là, c'est vrai.
Limite, on a eu l'obligation de les organiser par le CIO. Mais on a les Jeux Olympiques, on a eu avant les Jeux Olympiques d'été à Paris, on a eu la Coupe du Monde de rugby, on a eu des matchs de NBA, de l'UFC.
Mais parce que ça rapporte, alors, tout ça ?
Parce que, non ? Oui et non, mais le plus important... c'est que politiquement, il y a des décisions qui ont été prises, notamment l'exonération fiscale. L'exonération fiscale des compétitions sportives internationales. Il faut savoir que depuis 2016 et l'Euro de foot qui a eu lieu en France, toutes les compétitions sportives internationales d'envergure sont exonérées d'impôts. Et c'est un choix politique. Donc derrière, si le politique prend des décisions pour les compétitions, il faut aussi lui rendre l'appareil.
Vous écoutez France Inter, il est 17h25. Sur les pentes enneigées du domaine skiable de Samoin, on l'appelle le chamois d'argent. Gaudi, tout en souplesse, flexion, extension, qui donne des bouffées de chaleur aux Lacarzouz présentes en masse dans la station et qui manque de mourir d'épectase à chaque plantée de bâton. Cyril Lacarrière est une légende en Haute-Savoie, où il vous donne d'ailleurs rendez-vous mardi prochain au restaurant de l'altitude L'Igloo. Pour une séance exclusive de dédicace où il signera ses plus beaux douceaux. En attendant, c'est l'heure du Lacar News. Les trois infos qu'il ne fallait pas manquer en ce lundi 17 février. Et on commence par le remerciement du jour.
Je remercie ma chère Zoé, ma chère Selena et aussi ma chère Carla Sofia à qui j'envoie un baiser. Ça, c'était hier soir à Londres et celui que je viens de citer, c'est Jacques Audiard, le réalisateur d'Emilia Pérez qui remercie ces trois comédiennes. Il vient de recevoir le BAFTA Award du meilleur film en langue non anglaise. Les BAFTA, ce sont les équivalents des Césars en Angleterre. Et si je vous en parle, c'est que ce mot de Jacques Audiard à Carla Sofia Gascoigne est important dans le contexte actuel. La comédienne est à l'origine d'une polémique qui parasite la campagne promotionnelle de son film à cause d'anciens messages sur X qui ont été exhumés, des messages racistes et islamophobes. Si Audiard a pris ses distances avec Carla Sofia Gascoigne, le fait qu'il la remercie hier montre que le metteur en scène n'a pas oublié l'importance de sa comédienne et son incroyable performance malgré les polémiques. Jacques Audiard, grand réalisateur et chouette mec.
Le compte à rebours du jour, Cyril.
Il est hospitalisé depuis vendredi, c'est la quatrième fois en moins de 4 ans. Alors, la version officielle dit qu'il dort bien, qu'il se repose et qu'il lit les journaux, mais quand même il présente un tableau clinique complexe et à 88 ans, quand c'est complexe ça peut vite devenir la fin. Donc posons la question qui hante Pierre Courade en ce moment, le pape François va-t-il pouvoir continuer à être pape ? Est-ce qu'on va assister à un nouveau renoncement après Benoît XVI ? C'était il n'y a pas si longtemps, il y a 11 ans exactement. François assure lui qu'il n'a aucune intention de ralentir son rythme. Attention quand même à la grande faucheuse.
Puisse-t-il vous entendre, Cyril ? Vous prenez beaucoup de liberté avec le souverain pontife. Cyril, faites très attention. On termine avec les jeux du jour.
Et pas n'importe lesquels. Des jeux augmentés. Pour le dire autrement, des jeux où le dopage sera autorisé. Et non, ce n'est pas une blague. Et mieux encore, ce projet est financé par Donald Trump Jr., le fils de qui vous savez. Décidément, les Trumps sont dans tous les bons coups. Ces jeux augmentés représentent l'avenir. Une compétition avec une vraie liberté et des vrais records écrasés. Voilà comment Junior a présenté cette future compétition. Parmi les autres investisseurs, on retrouve Peter Thiel. On en a parlé à ce micro la semaine dernière. Le fondateur de PayPal qui fait partie de la galaxie Trump depuis plus de 10 ans maintenant. Ces jeux trouvent tout. De la meilleure idée à la con, espère que ces jeux pourront se tenir en fin d'année 2025 ou même début 2026. Il s'agit d'excellence, d'innovation et de domination américaine sur la scène internationale. Tout ce qui représente le mouvement MAGA, cet excité Trump Jr. Ainsi va l'Amérique.
Comme vous dites si bien, Cyril. Merci, mon cher Cyril. Pas de jingle aujourd'hui, visiblement, pour votre chronique. Puis il n'était peut-être pas suffisamment au niveau pour mériter le jingle de sortie.
Pas grave, c'est jingle.
C'était vraiment très, très bien. Merci, Pierre Rondeau. Ces jeux augmentés, on pourrait donc se doper à loisir. C'est la victoire de la science sur le sport. C'est la victoire du transhumanisme sur l'humanisme. Où on va, là ?
C'est un vrai débat, le dopage, dans le sport professionnel. C'est vraiment un vrai débat.
C'est pas si loufoque que ça.
C'est pas si loufoque parce que sachez que si vous posez la question directement à des sportifs de niveau, certains sont d'accord et sont pour se doper pour remporter des titres.
Il y a si tout le monde se dope, on est tous au même niveau.
L'idée de considérer que si tout le monde se dope, au final, on est le même niveau, donc c'est le terrain qui va primer. Alors que si on interdit le dopage, il y aura le passager clandestin, quelqu'un qui pourra parvenir à remporter des matchs en trichant. Mais véritablement, vraiment, je suis très sérieux. Ouais. On a posé la question, enfin pas moi, mais une étude a été réalisée et a posé la question à des sportifs de niveau si entre remporter des médailles, remporter les plus grands titres, marquer un triplé en finale de Ligue des Champions à la 90e minute avec son club de cœur, mais avoir un risque de mourir dans les 5 prochaines années augmenté de 50%, ou ne rien gagner du tout, mais rester en vie jusqu'à 90 ans, la moitié choisissait l'option A. Donc, il y a certains sportifs de niveau qui
sont prêts à tout.
Et quand on leur dit, vous pouvez gagner, mais il y a un risque avec des conséquences, que le dopage, on en parle, mais il y a vraiment des conséquences sur la mortalité, certains sportifs de niveau disent, le jeu en vaut la chandelle, et foutu pour foutu, je me dope et je gagne.
Eh bien voilà, une information assez stupéfiante, une de plus dans Zoom Zoom Zen.
C'est bien utilisé en plus.
Dans sa France à lui, direction à présent la troisième ville de France, qui n'est pas Alençon.
Non, qui est Lyon, et j'ai lu dans la tribune de Lyon ce week-end, JO 2030, quel rôle pour Lyon, puisque la ville s'est sentie un peu en demi-teinte, lésée en tout cas sur les JO 2024, les JO de Paris, puisque Marseille a pris la lumière avec la flamme, Lille avait pris la lumière aussi avec le basket, et c'est vrai que Lyon, à part 11 matchs au Groupama Stadium, on n'en a pas trop entendu parler. C'est un petit peu pareil, puisque le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui est les écologies les verts, dit n'être ni informé, ni associé à la préparation des Jeux de 2030. Ce serait fou de penser qu'on va faire les JO sans la métropole. Alors évidemment, je me suis un peu renseigné sur la ville de Lyon, et ce qu'on peut voir et trouver, c'est qu'il y a les écologistes qui sont très présents. Il y a le président de région de métropole que je viens de citer, mais il y a aussi le maire, Grégory Doucet, qui lui dit il faut qu'on fasse les choses sérieusement. S'il s'agit de défigurer les montagnes avec les retenues collinaires ou d'apporter de la neige par camion, la réponse est non. Mais on sait organiser des jeux avec des épreuves avec un aléa climatique qui peuvent se faire ailleurs que sur le site principal. Pour eux, c'est un enjeu énorme de faire les choses bien. Le problème, c'est que Lyon passe un peu à côté. Alors, ils vont accueillir quand même des championnats de hockey sur glace en 2028, donc ce sera avant ces Jeux. Ils vont transformer le Groupama Stadium en patinoire géante avec 1 million d'euros. Là où Nice dit qu'ils vont faire une patinoire à 15 millions d'euros. Donc il y a une sobriété, ils veulent absolument être dans la sobriété, ne pas faire n'importe quoi avec les Jeux. Là où Nice s'est rapidement imposé au centre, directement, on a entendu que le village serait certainement du côté de Nice et plusieurs épreuves dont le hockey sur glace. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, Pierre Rondeau, c'est est-ce qu'à trop d'exigences écologiques, Lyon ne va pas rater une occasion de montrer qu'on peut faire les choses bien ?
Oui et non, parce que Lyon se réveille, je dirais, un petit peu tardivement. À l'origine, dans le dossier de candidature, qui n'avait pas été vraiment une candidature, puisqu'on a imposé, le CIO a imposé à ce que la France organise. Mais dès le départ, c'était Nice qui était mis en avant. C'est Nice qui va accueillir la cérémonie d'ouverture et de clôture. C'est Nice qui va accueillir le village olympique. C'est Nice qui aurait dû, et dès le départ, être considérée comme la ville organisatrice, même qui aurait dû porter le nom Nice 2030. Donc quand Lyon dit aujourd'hui, maintenant qu'on a eu les Jeux Olympiques, on demande à ce qu'on soit mis en avant et on demande à ce qu'on ait des Jeux, à juste titre, éco-responsables, très bien. Mais se plaindre, tout en sachant que et en considérant que, au départ, c'était Nice qui était la ville candidate.
Le COJOB demain se réunit à Lyon, il me semble.
Bon, s'il se réunit à Lyon, c'est à Lyon, mais c'est pas pour autant que Lyon doit être la ville centrale et le centre de la compétition.
En un mot, ça fait deux fois que vous nous dites que les Jeux ont été un peu imposés à la France. Comment on impose des Jeux à un pays ?
C'est, en termes de mots et nouveaux mots à apprendre, si je puis dire, ce qu'on appelle en économie la winner curse, la malédiction du vainqueur. Pourquoi les Jeux précédents et pourquoi depuis Paris 2024, on a des Jeux qu'on va appeler sobres économiquement ? On est là pour Paris à 9 milliards, on est là pour les Jeux d'hiver à 3 milliards, comparativement aux 50 milliards qui ont été Sochi en 2014. Avant les Jeux de Paris, on avait ce qu'on appelle une compétition dans l'organisation où plusieurs villes se faisaient face et à chacune d'elles disait voilà, mais je vais promettre mon merveilles au CIO, je vais dire je vais faire un stade olympique de 1 milliard, je vais faire un village olympique exceptionnel, je vais faire plein d'infrastructures pour avoir la compétition. Et au final, la ville qui remportait l'organisation avait surpayé le coût réel et devait au final payer 10, 15, 20, 30, 50 milliards pour la compétition. Pour le cas de les Alpes 2030, Le CIO, sachant cette malédiction du vainqueur, a dit tout simplement « Dorénavant, on ne fait plus de compétition pour l'organisation, mais on impose aux villes qui sont désireuses dans le temps à organiser, on leur impose 2030, on leur impose 2034 pour les Américains, on leur impose 2038 pour les Suisses, et dorénavant, il n'y a plus de compétition. »
À suivre, qui va proposer le programme le plus avantageux en matière de droit de succession, rapport à cet appart qu'elle ne désespère pas de vendre un jour, Bruno Retailleau ou bien Laurent Wauquiez? Marie, je crois qu'en ce qui vous concerne, ça sera dur de trancher, sachant que vous les aimez tous les deux.
Évidemment, je les adore. Donc, ouais. Allez, on va parler de la course à la présidence LR entre Retailleau et Laurent Wauquiez. Un sujet qui a retiré toute la joie de vivre que j'avais dans mon corps, mais je vais quand même faire ma chronique avec le sourire.
Et oui, la chronique de Marie, c'est juste après Clou à l'arrière de la voiture sur France Inter. S'acheter une respectabilité en produisant des podcasts, ça devient la règle chez nos amis influenceurs, comme a vous l'expliqué Manon dans sa veille sanitaire. Mais pour l'heure, quand on parle politique sur Inter, on pense d'abord bien sûr à Patrick Cohen, ensuite on pense à Thomas Legrand, ensuite éventuellement à moi, mais en quatrième, je dirais en embuscade, il y a vous, Marie Debray.
C'est la course à la présidence chez les Républicains, vous n'y connaissez rien, moi non plus. Alors d'un côté on a Laurent Wauquiez, ou plutôt Laurent Wauquiez, je sais tellement pas qui c'est, je pensais que c'était Bruno Le Maire. J'ai joué au jeu des 7 différences, j'en ai trouvé que 4. La grosse différence étant que Laurent a moins écrit de bouquins avec le mot anus dedans. Laurent, son truc, c'est les grands dîners aux frais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, 100 000 euros pour 90 invités. Il y a Interjo que c'était un buffet à volonté, hein. Sinon tu t'es fait arnaque, Lolo. Wauquiez, un des mots d'ordre de sa campagne, c'est de lutter contre l'assistanat. Si t'es contre l'assistanat, paye ta bouffe tout seul, déjà. Voilà. On dit de cette blague qu'elle est facile, mais fallait la faire quand même. L'autre candidat, c'est Bruno Retailleau. Lui, c'est comme un enfant qui déteste les légumes. Il peut pas se bouffer une courgette, il chiale devant des brocolis. Sauf que c'est pas les légumes qu'il déteste, c'est les Arabes. Voilà. Le pari, elle est juste, ceci dit, avec l'enfance, parce que comme d'hab, c'est la cour de récré. Hein. Retailleau versus Wauquiez, j'ai l'impression qu'on assiste aux élections des délégués en 5e B au collège Sainte-Marie de Saint-Glinglin, un établissement privé catholique, bien sûr. Il y a le petit Laurent qui se présente, stratégie de gros faillot, et il a organisé un grand goûter dans la salle des profs, avec des gâteaux de marque et tout. Hein. Et comment il a payé? Avec son argent de poche? Non, avec l'argent du contribuable. De l'autre côté, on a le petit Bruno qui lui a déclaré « Moi, je pense que le problème dans notre belle classe, c'est Karim !» Ce à quoi Laurent a répondu « Mais moi aussi, j'aime pas les Arabes !» Leur programme pour devenir délégué, Laurent obsédé par la bouffe propose quand même de retirer tous les plats à base de semoule. Voilà, bon. Bruno, lui, veut retirer les cours de maths. Parce que c'est chiant, les maths ? Non, parce que ça a été inventé par les Arabes ! Ce à quoi Laurent a répondu « Mais moi aussi, j'aime pas les Arabes !» Laurent et Bruno ont dit qu'il n'y aura pas, je cite, de match sanglant. Et pourquoi pas ? Va falloir régler ça à l'ancienne. Rendez-vous 15h10 à la récré, derrière l'épicéa. Manger léger, les mioches, ça va être le combat du siècle. C'est l'heure du choc des titans, alors que le combat ne fait que commencer. Déjà un rebondissement, Wauquiez se jette sur le pain surprise qu'il a lui-même apporté. Il cherche l'étage des petits sandwichs au saumon fumé, tandis que Retailleau, lui, se jette sur le petit Karim. On entend au loin Laurent, bouche pleine, mais moi aussi j'aime pas les Arabes. C'est n'importe quoi. L'arbitre intervient, replace les deux combattants au centre, et là, oh là là, c'est l'humiliation. Hein. Bruno envoie des coups de poing dans le vide, fermant les yeux, pendant que Laurent reste en boule au sol, probablement une légère indigestion à cause des sandwichs au saumon. Dans l'assistance, on s'emmerde ferme. Hein. Une partie des élèves joue à 1, 2, 3 soleil. Mais que vois-je au fond de la cour ? Marie de Broer, la seule élève de Sainte-Marie de Saint-Glinglin qui porte un sarouel turquoise et des converses dépareillées. C'est absolument immonde. Hein. Une des élèves de gauche, évidemment. Elles sont rares. Elle se met à jongler avec des ballons cuir et chante l'hymne de nos campagnes. C'est gênant. Elle essaye de prendre Karim par la main pour lancer une farandole d'inclusivité. Un fiasco. J'en connais une qui va prendre cher au conseil de classe en 2027.
Merci Marie Debrer. Juste une précision pour être factuellement juste. Hein, Bruno Le Maire n'a jamais utilisé le mot anus dans ses romans. Mais il utilise le mot renflement brun.
De son anus.
C'est littéraire. Oui, oh, mais non, mais le mot n'est pas prononcé. Respectons les écrivains, Marie, c'est important. On parle des JO d'hiver cet après-midi, les JO d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises avec l'économiste du sport Pierre Rondeau cet après-midi. Pierre, le CIO a attribué les JO aux Alpes françaises, on l'a dit, sous conditions. Alors déjà, est-ce que c'est fréquent ça d'attribuer des JO sous conditions, et puis quelles sont ces conditions ?
Il faut garantir l'équilibre budgétaire, il faut garantir la solvabilité, la sobriété environnementale, il faut garantir la neutralité carbone, il faut faire face aux obligations de transition énergétique.
On en parlait tout à l'heure, comment on va faire des JO d'hiver en 2030 neutres en carbone ?
Alors, c'est tout, là, encore une fois, peut-être que je pourrais parler d'hypocrisie, en tout cas de l'hypocrisie de ces rapports, c'est de considérer que le carbone, en tout cas les émissions carbone, sont calculées à partir de la construction des infrastructures qui sont émettrices de carbone.
Et là, elles sont construites.
Donc, de fait, il y aura peu d'émissions. Et si ensuite on rajoute à ça le déplacement, vous l'aviez précisé en début d'heure, le déplacement des personnes intra dans la zone géographique, ils vont trouver des solutions avec des bus en hydrogène, des bus électriques ou des déplacements en train plutôt qu'en avion. Ce qui est intéressant dans ce calcul du bilan carbone des compétitions, c'est que le déplacement des flux touristiques de l'étranger n'est pas pris en considération.
D'accord. Ah oui, donc là, forcément.
Donc, dans ces cas-là, oui, on ne va pas construire. On va avoir des déplacements en train en France pendant l'événement. Mais si derrière, on fait venir des Américains et des Japonais pour assister à l'événement, on aura tout de même des émissions carbone.
Est-ce qu'on est sûr d'avoir de la neige ? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de neige dans les Alpes en 2030 ?
Bah, on va en camion transférer et apporter de la neige artificielle. Que ça s'est déjà fait dans des compétitions. J'ai en tête les championnats du monde de biathlon il y a 2 ans où il y avait eu des dizaines et voire des centaines de camions qui étaient venus le matin déposer de la neige non pas artificielle mais la neige de réserve, de stockage, si je peux dire, pour assurer et garantir les compétitions. Et rappelez-vous les Jeux de Sochi en 2014, les plus chers de l'histoire, Jeux d'hiver, Jeux d'été confondus, 50 milliards de dollars. Les Jeux de Sochi, il faisait 30 degrés, les gens faisaient du biathlon torse nu, avaient une piste de neige et à côté c'était de l'herbe. Voilà, on avait ce genre de choses. Donc, je ne pense pas que ce soit possible pour le cas français, mais effectivement, si on est amené à avoir une canicule en février 2030... on a toujours la neige artificielle.
On y arrivera quand même. Manon.
On sait désormais ce qu'ont réellement coûté les Jeux Olympiques et combien ça ils ont rapporté.
Ceux de Paris ?
Oui, oui.
Alors ceux de Paris, pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Il y a des études qui sont faites actuellement de coûts-bénéfices et du coût total et des gains que ça pourrait apporter. Je sais que France Stratégie met en place actuellement une étude de ce type pour vraiment cibler, considérer combien ça a coûté. Ce qui est sûr, si je prends uniquement les coûts directs, ceux du COJOP et de la Solidéo, on est sur un total de 8,8 milliards. 4,4 pour le COJOP et 4,4 pour la Solidéo. 8,8, ça paraît beaucoup comme ça en milliards. J'ai pas intégré la sécurité, intégré l'organisation, j'ai pas intégré les conséquences et les coûts directs, indirects ou induits. Mais 8,8, c'est très peu par rapport à ce qu'ont été les Jeux de Londres à 12 milliards, les Jeux de Rio à 36 milliards, les Jeux de Pékin en 2008 à 32 milliards. On est sur des Jeux moins chers. Okay. 8,8, c'est beaucoup, mais c'est moins cher que les précédents.
Pierre Rondeau, si on dézoome un petit peu, ça fait des mois maintenant qu'on nous parle du déficit de la France, on cherche des euros un peu partout. Est-ce que c'est raisonnable d'organiser ces JO d'hiver 2030 chez nous? Parce que
vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est si ça rapporte de l'argent. Si en termes d'investissement, en termes de visibilité, en termes de gains, ça peut effectivement rapporter de l'argent. Là, je vous cite effectivement l'étude qui est construite actuellement par France Stratégie pour savoir si véritablement les Jeux de Paris 2024 ont été bénéficiaires, ont rapporté. Il y a plein d'éléments qui sont pris en considération, notamment le bonheur. Et le bonheur peut être monétisé. Le bonheur peut apporter des bonifications et des retombées économiques. Et on sait que
le bonheur est pris en compte dans le PIB maintenant ?
En tout cas, on sait que le bonheur peut apporter des conséquences indirectes et induites sur l'économie. Ce n'est pas encore intégré au PIB. Et on mène l'étude actuellement pour savoir si effectivement les Jeux de Paris ont apporté ce gain de bonheur que pourront apporter les Jeux d'hiver 2030. Londres en 2012, ça a été onéreux et cher à court terme, mais ça a apporté des bonifications sur le bonheur, sur le bien-être, sur le moral, sur la réputation, sur la pratique sportive qui permet à ce que d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ait des bonifications économiques. Donc oui, si ça rapporte plus que ça ne coûte, c'est intéressant. Vous pourrez me dire, sur la pratique sportive, c'est pas parce que je vois des gens faire du ski que j'ai envie d'aller faire du ski tous les jours. C'est plus facile pour les Jeux d'été. Oui. Mais voilà, si on a la même envergure, les mêmes retombées en termes de médiatisation que les Jeux d'été 2024, on peut s'imaginer que, je rappelle que pour l'instant, la facture se chiffre à moins de 3 milliards, ça pourrait, je dis au conditionnel, rapporter plus que ce que ça
pourrait être intéressant financièrement. Vous écoutez France Inter, il est 17h45. Elle-même le sait, un grand nombre de followers sur les réseaux obligent à faire attention à ce qu'on y publie. Par exemple, en ce qui la concerne, aucune photo d'elle allongée à même la Rambla ce week-end cuvant sa sangria. Non, aujourd'hui, les influenceurs doivent jouer stratégique. Manon, vous nous présentez donc le nouveau format préféré des créateurs de contenu.
Le podcast, après la photo, la vidéo, les stories, les influenceurs veulent maintenant parler avec un micro casque sur la tête pour espérer atteindre les fameux tops de la semaine de Spotify. Car aujourd'hui, avoir un podcast, c'est synonyme de réussite, de sérieux et de pouvoir. Ça permet notamment aux créateurs de contenu de renouveler leur image et de la monétiser autrement. Ils ne sont plus que de simples youtubeurs, ce sont aussi des intervieweurs qui peuvent aborder des sujets sérieux. C'est notamment le cas aux États-Unis où le marché du podcast est estimé à 4 milliards de dollars. Là-bas, les nouvelles voix les plus influentes sont des podcasteurs et la plupart sont des créateurs de contenu reconvertis. C'est le cas de Logan Paul par exemple, j'en avais déjà parlé, ce catcheur devenu youtubeur star avec plus de 23 millions d'abonnés a lancé son podcast Impulsive en 2018, des interviews face à face avec des invités. Alors au départ, c'était plutôt des influenceurs ou des experts, mais aujourd'hui, Logan Paul est devenu officiellement Trumpiste et il utilise son podcast pour partager son idéologie. Résultat, son image a changé. Il n'est plus le petit youtubeur un peu controversé, mais le podcasteur qui a interviewé Donald Trump.
C'est le format qui aide.
Oui, surtout que le fait que les podcasts sont désormais quasiment tous filmés, l'un des premiers à l'avoir fait, c'est Joe Rogan, qui présente aujourd'hui le podcast le plus populaire aux États-Unis. Depuis 2009, il filme ses interviews à la manière d'une émission de télé qu'il poste sur YouTube. Ça cartonne tellement que Spotify lui a signé un deal d'exclusivité en 2020. Aujourd'hui, il est l'une des personnalités les plus influentes aux États-Unis, soutien de Donald Trump et complotiste notoire. Mais tout le monde a repris sa manière de faire, des interviews filmées avec juste deux micros, pas cher, facile à produire. Le but, que des extraits deviennent viraux sur les réseaux pour inciter à regarder ou à écouter le podcast en entier. Et selon YouTube, l'année dernière, plus de 400 millions d'heures de podcasts ont été regardées sur des téléviseurs, un peu à la manière des late shows.
Et sauf que les animateurs ne sont plus des journalistes.
Eh bien, pas forcément, en effet. En fait, le podcast ne demande pas forcément de légitimité particulière comme une émission ou un article. Sa popularité est surtout due à celle ou à celui qui l'anime. C'est pour ça que les créateurs de contenu ont un avantage. Ils sont déjà suivis sur les réseaux, donc leur podcast a plus de chances de faire de l'audience, d'où le fait que les plateformes de streaming signent maintenant des deals exorbitants avec eux. Je parlais de Joe Rogan. Le contrat de Spotify avec Joe Rogan, ce serait de plus de 250 millions de dollars. On ne sait pas pour combien d'années en plus. En France, c'est pareil. Spotify a par exemple signé avec les influenceuses Léna Mafouf et Sally. Et puis celui qui produit le podcast numéro 1 en France actuellement reprend exactement le modèle américain.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les Ondes.
Guillaume Play, ancien animateur star de Énergie, star de YouTube, très influent sur les réseaux, avec plus d'un million de followers sur Instagram et 2 millions sur TikTok. Il y a 2 ans, il a créé son média en ligne Legend, des interviews face à face avec des personnalités déclinées en podcast et sur YouTube. Et c'est donc lui qui truste la première place des podcasts en France. Son but, donner la parole à tout le monde dans la bienveillance, je le cite, il reçoit aussi bien Nicolas Sarkozy que Sandrine Rousseau. Sauf que derrière son sourire enjoliveur, il fait aussi des interviews un peu plus controversées, comme celle de Dieudonné en septembre dernier. Des critiques lui ont reproché de ne pas avoir eu de répartie face à celui qui a été condamné pour discrimination raciale à plusieurs reprises. Les sympathisants d'extrême droite, eux, l'applaudissent. C'est peut-être là la limite de l'exercice. On ne s'improvise pas, journaliste.
On ne s'improvise pas, journaliste. J'aime cette conclusion et je signale à Spotify que 250 millions de dollars, c'est beaucoup pour 50 millions. On leur file les droits de Zoom Zoom Zen. Okay. Sans hésiter une seconde. Merci Manon. Sera-t-il prêt pour les JO de 2030? C'est la grande question qu'on se pose lorsqu'on le voit débarquer en studio, encore claudiquant après l'un de ses 72 accidents en motocyclette. Bonjour Berwan Ben Lazar.
Sur du bitume avec des pneus, je ne tiens pas. Alors sur la neige, ouais, je te
non,
laisse t'accroche imaginer.
Pas. Oh mon Dieu, je ne préfère pas. La chronique de Berwan Ben Lazar, c'est juste après Leon Bridges, l'arrêt d'eau sur France Inter. I was running out of time, inspiration hard to find. Cross the Rio Grande, take me to your city lights, out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the riddle? Just one more night. Just one more night. I knew a girl with a diamond crown, grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette. Show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down-tempo, low-key and rock-steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the riddle? Just one more night. Just one more night. Oh. Na, 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 na. Oh yeah, yeah. Play me something down tempo. Rock steady, body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. No whiskey and ginger, love I'm just a beginner. What if I stayed in the rain? Just one more night, just one more night. Play me something down tempo.
Mathieu Noël sur France Inter.
Notre révélation autoproclamée de l'année est là. Ses chevilles sont de plus en plus enflées, sa tête passe difficilement les montants de la porte. Maintenant qu'on lui a poliment demandé d'enlever ses lunettes de soleil, qui, soi-disant, lui servaient à éviter d'être harcelé dans la rue, Merwan Ben Lazar a daigné s'installer sur son siège habituel, en attendant évidemment qu'on lui installe à sa demande un trône serti de diamants. Bonsoir Merwan.
Bonsoir, le soi-disant, c'est vous qui l'avez ajouté, si je puis me permettre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lundi, je vous ai jamais demandé, c'est impoli, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end.
Excellent.
Le moment pour moi de parler de mon week-end, passé à attendre la réponse de la direction suite à ma demande d'augmentation, qui fait suite, logiquement, à mon nouveau statut. Donc, réponds à mes mails, Adèle. Maintenant que ça c'est fait, on reçoit aujourd'hui donc Pierre Rondeau. Vous êtes brillant, vous êtes économiste, professeur à la Management School de Paris, à la Sorbonne, et en parallèle de tout ça, sur RMC. La double vie qui est incroyable. Ça doit être énorme, la journée avec des étudiants, des chercheurs, et le soir, rire aux blagues de cul de Vincent Moscato. C'est génial. Et ouais, ça côtoie des scientifiques et des primates, comme les scientifiques de la planète des singes, là, j'aime trop. En vrai, de vrai, respect, respect à ça. Vous êtes comme Superman un peu, là. Mais vous êtes avec nous pour parler d'un truc cool, les JO d'hiver 2030. Magnifique, en vrai, premier degré, j'ai ultra hâte. J'espère qu'il nous restera de la neige en 2030, hein, c'est le sujet, avec tout ce qui s'envoie à l'Assemblée nationale. Mais j'espère être présent au JO des neiges. En vrai, de vrai, ça dépend, on connaît ainsi. D'ici là, je suis autorisé de nouveau à porter un bonnet sur le territoire. Et, en vrai, 2030, juste à être sur le territoire, parce qu'il y a Marine 2027 avant. Ouais, Marine 2027, les JO 2030, le crossover peut être énorme. Hein. Et la neige, oh l'avalanche, pile pendant le passage des athlètes marocains. Oh, strange, strange, amazing, c'était Nelson Montfort. Mais en vrai, la dernière fois que je suis allé à la montagne, moi pour le coup, ça fait longtemps que j'y suis pas allé parce que ça s'est pas très bien passé. Je vous raconte, story time. En gros, j'y suis allé avec ma classe de cours d'arabe, ok? Donc en vrai, en mode classe verte et tout, donc mon délire, bonne idée. Sauf que si tu réfléchis bien, 15 barbus en tenue de sport dans une montagne, c'est pas classe verte, c'est Daesh. Et oui, on n'avait pas anticipé, et oui, et c'était incroyable les gars. Ça veut dire, on montait, il y a des gens, ils avaient fait le monter, ils redescendaient, ils nous croisaient, ils disaient, eh ben j'ai juré, je remonte, c'est ça. Ils étaient terrorisés, on n'était pas dans notre élément, les gens, on était dans leur élément, on comprenait, les vieux, on les a choqués, les vieux des montagnes là, en leggings, oh là 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 là, ils nous voyaient, ils étaient, je savais pas que les Arabes respiraient à cette altitude, genre vraiment, je te jure. Mais j'avais jamais vu autant de vieux en leggings avec les doubles cannes. Y a que moi qui suis choqué des doubles cannes. Une canne, c'est la vie qui dit repose-toi. Eux, double canne, je suis un quadrupède. J'escalade une montagne. En vrai, on était terrifiés et on a terrifié la montagne, pour être honnête. Donc, les JO en France, tout ça, c'est pas qu'une anecdote personnelle, on va élargir parce qu'on est un professionnel de la chronique. C'est l'occasion de faire découvrir la montagne aux banlieusards. C'est ça que je veux dire. Il faut qu'on s'approprie ça, nous aussi. Je veux des banlieusards champions de sport de glisse. Ça y est, le bol, la boxe, on a compris. Le foot, on a compris. Je suis de Saint-Denis. Moi, je veux voir un mec de Saint-Denis qui nous représente en 2030. Je veux voir un Nelson Montfort crier « Touchous, Mokhtar, touchous !» C'est ça que je veux. C'est de ça dont j'ai besoin. On a donc, pour mettre un peu de contexte, 5 ans pour trouver un banlieusard champion de ski. Dit comme ça. Ça ressemble beaucoup à un scénario écrit par Franck Gastambide. Mais je suis motivé. Et j'ai appris que la rémunération pour être président du comité olympique là, pour les Jeux d'hiver, c'est 220 000 euros par an. 220 000 euros par an, soit 400 ans à travailler pour le despote de Radio France, Cyril Lacarrière. Cela dit, 220 000 euros par an, les gars, 220 000 euros par an, c'est pourquoi je finis cette chronique en présentant officiellement ma candidature à la présidence des prochaines éditions des Jeux des Montagnes. Là. On a les premiers commentaires en live sur ma candidature, c'est sur Twitter, X. Alors je lis, c'est du live, hein, Ben Lazar à la présidence des Jeux d'hiver, depuis quand les bronzés font du ski? Waouh, on avait l'habitude de ce genre de sortie, mais là, elle va loin, Véronique Jeunesse. Je lis les réponses. Haha, vous m'ôtez les mots de la bouche, dit Noël Mat 05. Bref, Merwan 2030, croyez-y. Je sais pas si j'ai les compétences, mais ça sonne mieux que Marine 2027. Engagé et tout, putain.
Oh, magnifique, quelle chute. Merci Merwan Ben Lazar. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, ainsi que sur scène en tournée.
Exactement.
À Saint-Etienne, Metz et à Paris.
Le 9 avril.
Mais c'est où à Paris? On sait où c'est?
J'ai oublié le nom, mais c'est
mais c'est vraiment génial, c'est une très belle salle, une salle magnifique où vous êtes très bien assis. Nelson Montfort, vous pouvez nous faire le touchous Mokhtar en finale du slalom?
Ah oui, tout à fait.
fait Mathieu, oh, tout chou ce matin, tout chou.
Magnifique. Si vous avez besoin d'intervention
ben oui,
de type imitation dans votre chronique, il est moins cher que quand Lou il est avec nous chaque après-midi. C'est Quentin, lui. Merci Merwan, merci Pierre Rondeau de nous avoir permis de comprendre à quel point on était prêt ou pas. J'ai pas très bien compris pour ces JO d'hiver de 2030, mais en tout cas on est positif. Est-ce que ça peut être les derniers JO d'hiver de l'histoire? Parce que vous avez dit que le CIO était assez conscient du réchauffement.
Non, mais ça peut être tout simplement pas pour la dernière fois, puisque c'est en France, mais en tout cas, des jeux qui, dorénavant, seront uniquement dans 3, 4, 5 villes du monde.
Merci Pierre pour tous ces éclairages sur les JO d'hiver. Je rappelle que vous avez cofondé, que vous co-dirigez l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Merci à tous mes champions, Manon, Marie, Quentin, Cyril, le chamois d'argent de Samoin, toujours aussi souple sur ses appuis malgré l'arrivée imminente de la cinquantaine. Merci à tous ceux... On dit Samoin, c'est lui qui m'a dit qu'on disait comme ça.
D'accord.
Merci à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission, Florent Gimalac, Stéphanie Valois, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Aubert et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Alicia Vulot, à la technique Gilles Gaillard. Demain, je vous entraîne dans mon monde, celui de la nuit, de la night, et plus spécifiquement des rave parties. Avec cette question, en 2025, faire la fête est-il devenu un acte politique? Vous avez 24 heures pour réfléchir. Zoom, zoom, zen.